Mais d'abord, on va accueillir notre invité pour parler de ces commémorations du génocide qui se poursuivent au Rwanda. On verra si Paul Kagame réagit aux déclarations d'Emmanuel Macron et à la confusion de ce week-end, l'Élysée ayant fait fuiter des propos du président français qui n'ont en fait pas été repris dans son message officiel d'hier. Il semble tout de même vouloir avancer dans la reconnaissance du rôle de la France à cette période. Mais d'anciens génocidaires vivent toujours sur le sol français et les procès, eux, sont relativement peu nombreux. On en parle avec David Servenay. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, auteur de plusieurs enquêtes et ouvrages sur le génocide des Tutsis. Vous avez écrit notamment avec Benoît Colomba « Au nom de la France, guerre secrète du Rwanda » qui est paru aux éditions La Découverte. Alors, j'ai lu qu'on estimait le nombre de génocidaires installés en France à plusieurs dizaines. Est-ce que vous nous confirmez cette estimation? Quelles sont les informations dont vous disposez sur ce point?
Oui, alors on est à peu près dans cet ordre d'idée. La dernière évaluation que les Rwandais eux-mêmes avaient émise faisait état à peu près d'une centaine de génocidaires installés en France. Alors après, sur environ un millier qui serait réparti un peu sur toute la planète, ce qui représente pas mal de gens quand même. Après, la question est de savoir de qui on parle.
Exactement. Est-ce que s'agit de hauts responsables ou de personnalités qui seraient moins gradées entre guillemets?
Alors, on peut considérer, au vu du bilan du TPIR qui va bientôt fermer, là maintenant, que
le tribunal pénal international pour le Rwanda
a jugé une centaine de personnes qu'on considérait comme étant le haut du spectre, si vous voulez, comme on dit, c'est-à-dire les gros poissons, les organisateurs du génocide. Après, les gens vers qui on arrive aujourd'hui et dont un certain nombre sont présents en France, sont des gens qui sont pas de simples génocidaires, pas simplement des exécutants, mais des gens qui ont été un peu dans la hiérarchie intermédiaire. Un préfet, d'anciens militaires, un vétérinaire, comme on l'a vu récemment aussi, vous voyez. Des gens qui souvent avaient un statut de personnalité locale, de notable, et qui ont été de fait à la tête de groupes de miliciens ou qui ont participé directement à l'organisation du génocide.
Alors il y a un cas emblématique quand même en France, c'est la veuve du président Habyarimana, dont le régime a préparée à organiser le génocide. Elle faisait partie du cercle le plus restreint du pouvoir. D'ailleurs, elle est poursuivie pour complicité de génocide, mais elle vit toujours libre en région parisienne aujourd'hui.
Oui, tout à fait. À Évry-Courcouronnes, Agathe Kanziga, effectivement, fait l'objet d'une plainte depuis 2007 maintenant, ce qui fait quand même une sacrée durée. Sa particularité, c'est qu'elle est dans une espèce de zone de non-droit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une enquête, mais elle n'a jamais été mise en examen, comme on dit. Elle n'est pas expulsable non plus. Les autorités françaises ont refusé de l'expulser vers le Rwanda, qui la réclamait. Et en même temps, elle n'a pas de statut de réfugié politique non plus. Donc elle, c'est un cas un petit peu particulier, qui est lié évidemment à la fonction qu'elle occupait, puisqu'elle était la première dame, mais surtout elle était ce qu'on appelle la responsable de la casou, la petite maison, c'est-à-dire le clan des extrémistes qui entourait le président Habyarimana et qui a été directement qui ont été les organisateurs vraiment du génocide. Mais ça illustre, le cas d'Agathe Kanziga illustre un petit peu l'état aujourd'hui de la justice française par rapport à la question des génocidaires rwandais. C'est-à-dire qu'on a deux problèmes. On a un problème de temps, c'est un temps long, les enquêtes sur les génocidaires, parce qu'il faut retourner au Rwanda, retrouver des témoins qui aujourd'hui disparaissent petit à petit, puisqu'on est 30 ans après les faits. Et puis il faut également avoir les moyens d'enquêter. Et là-dessus, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour avoir une idée, aujourd'hui on a encore 30 dossiers qui sont à l'instruction, donc entre les mains des enquêteurs et des juges, mais il n'y a que deux enquêteurs à l'office central qui s'occupe donc des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Il n'y a que deux enquêteurs pour gérer ces 30 dossiers et trois juges d'instruction au pôle génocide, comme on l'appelle. Donc comme en 2012, l'année où ce pôle a été créé. Donc vous voyez, les moyens n'ont pas beaucoup évolué, alors même qu'une certaine volonté politique s'est exprimé pour dire on n'abandonne pas, au contraire, on va accélérer la cadence de façon à pouvoir organiser plus de procès, mais en réalité, au grand maximum, pour l'instant, la justice française n'arrive qu'à organiser que deux procès par an. Donc vous voyez, il reste 30 dossiers, ça veut dire que peut-être que dans 15 ans, on arrivera au bout du processus.
Oui, par exemple, on a vu aussi le travail considérable qui a été abattu ces dernières années, depuis des dizaines d'années, même par le collectif des partis civils pour le Rwanda, pour traquer les anciens génocideurs. On a l'impression que ce collectif, cette association, est bien seule par moment.
Oui, alors tout, c'est vrai. Bon, il y a aussi la Fédération internationale des droits de l'homme, l'association Survie, mais c'est vrai que ce collectif des partis civils pour leur mandat est vraiment en fait pallie, si vous voulez, les carences du service public. C'est-à-dire que
est-ce que le gouvernement s'appuie sur eux, par exemple, en considérant qu'une partie du travail doit être menée par les associations, ou est-ce que c'est tout bonnement un manque de volonté politique?
Alors, moi, je pense que c'est un manque de volonté politique, parce que si les politiques voulaient vraiment mettre en œuvre ce qu'ils disent depuis 3 ans, notamment maintenant depuis qu'il y a eu un tournant politique entre la France et le Rwanda, si Emmanuel Macron voulait vraiment aller au bout de sa logique, bah, il doublerait ou il triplerait le nombre d'enquêteurs. On passerait de 2 à 4 ou 6, ce qui est quand même pas énorme, compte tenu encore une fois de la gravité de ces crimes et de ce que ça représente aussi à la fois politiquement et symboliquement, parce que si on veut vraiment aller au bout d'une forme de réconciliation avec le Rwanda, bah, il faut aussi que la justice passe.
Est-ce que vous pensez que ça peut être mis en œuvre par le président? Vous nous disiez que actuellement il y avait encore un manque de volonté politique, mais on sent bien quand même que quelque chose change, qu'on est bien loin de ces liens très forts qui existaient entre Paris et Kigali au moment du génocide, avant et puis encore un peu après. Est-ce qu'il peut y avoir un changement majeur là sous la présidence d'Emmanuel Macron, par exemple, pour faire avancer ces cas et ces procès?
Bah, il y en a eu un politiquement il y a 3 ans, encore une fois, quand il y a eu le rapport Duclert qui reconnaissait la responsabilité lourde et accablante de la France dans le génocide des Tutsis. Là, il y a eu un tournant politique, mais si vous voulez, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites à ce moment-là et qui continuent régulièrement à être faites. Le procureur en charge du pôle génocide, Jean-François Ricard, qui était à Kigali il y a quelques semaines, a dit on met les moyens, on accélère, nous n'abandonnons pas les enquêtes, etc. etc. Mais en réalité, encore une fois, il y a un problème de moyens derrière. Alors, si la France est un pays qui n'est pas capable de mettre, je vous dis, de passer de 2 à 4 ou 6 enquêteurs pour travailler sur ces dossiers, c'est qu'on a un vrai problème.
Merci beaucoup, David Servenay, d'avoir été en ligne avec nous, journaliste indépendant. Vous avez écrit de nombreuses enquêtes sur ce génocide des Tutsis, et notamment Au nom de la France, guerre secrète au Rwanda avec Benoît Colomba. Le livre est paru aux éditions La Découverte.
RFI Midi.